RFI.
Il est 9h à Paris, 8h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Bonjour, bienvenue à suivre dans 10 minutes vos questions sur l'actualité et dans 40 minutes vos réactions sur le Togo. L'alternance politique est-elle possible? 20 ans après l'accession au pouvoir de Faure Gnassingbé, nous lançons le débat. Mais d'abord, le journal international. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Juan Gomez et à tout de suite et à la une. Le cessez-le-feu à Gaza, salué ce matin par la Chine et par l'Iran, cessez-le-feu effectif dimanche. Accord négocié par les deux administrations américaines ces derniers jours, mais aussi par le médiateur qatarien. Accord qui stipule la libération de 33 otages israéliens. Les familles sont dans l'attente et sont forcément fébriles, vous l'entendrez. Aux États-Unis, discours d'adieu pour Joe Biden à Washington, tandis que les enfants reprennent le chemin de l'école à Los Angeles, après plus d'une semaine d'incendie. Enfin, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est à Moscou pour renforcer le partenariat de son pays avec la Russie. Des scènes de liesse hier soir dans la bande de Gaza qui tranche avec des mois de souffrance et de chaos. Après plus de 15 mois d'une guerre sanglante entre Israël et le Hamas, un accord de trêve a été conclu. Il entrera en vigueur ce dimanche pour une durée de 6 semaines. Une trêve permise par l'entremise des deux administrations américaines. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a d'ailleurs appelé Joe Biden et Donald Trump pour les remercier de leur aide. Permise aussi par l'intervention du Qatar, médiateur du conflit. Correspondance régionale de Joseph Clément.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Quand il prend le micro pour annoncer qu'un accord a enfin été trouvé, on sent comme un soulagement chez le Premier ministre du Qatar.
Au terme de l'accord, le Hamas va libérer dans une première phase 33 otages israéliens, dont des civils, des femmes, des enfants, des soldats, comme les personnes blessées. En échange, l'État hébreu libérera des détenus palestiniens, des prisons et centres de détention israéliens.
Accès à l'aide humanitaire pour les Gazaouis, libération de prisonniers, retrait des troupes israéliennes des grands centres urbains, l'accord semble complet. Mais quelle garantie cependant que pendant ces 42 jours de trêve, aucune violation ne soit commise? Mohamed Ben Abderrahman Al-Thani précise.
L'accord prévoit un mécanisme de suivi par 3 pays, l'Égypte, le Qatar et les États-Unis. Tous seront réunis au Caire. Ces 3 pays formeront un groupe dédié au suivi du respect de l'accord. Si tout va bien, tout sera prêt au jour du démarrage de cet accord.
Le vœu du Qatar, c'est que la première phase de 42 jours de cessez-le-feu puisse être prolongé par une deuxième puis une troisième phase avec comme perspective une paix durable dans la région. La prudence restait toutefois de mise à l'issue de la conférence de presse. Le Qatar s'attend en effet à des difficultés dès le démarrage du cessez-le-feu prévu pour dimanche. Joseph Clément, Riyad, RFI.
Et parmi le concert des réactions internationales, l'Iran a réagi ce matin. Les gardiens de la révolution qui saluent l'accord comme une victoire palestinienne. Accord également salué par la Chine. Et puis en Israël, les familles des otages sont toujours dans l'attente. Nous avons un accord sur les otages. C'est hier soir félicité le président élu américain Donald Trump. Côté israélien, il reste encore quelques questions à régler, affirme le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le chiffre de 33 otages libérés a été évoqué. Les familles, elles, sont à bout et espèrent voir le bout du tunnel. Des proches qui oscillent entre prudence et soulagement, comme la famille Bibas qu'a rencontrée à Tel Aviv Farida Noir.
J'ai bon espoir, j'ai peur, je suis sous pression.
Des montagnes russes émotionnelles, Yossi Schneider reverra-t-il Shiri Bibas, sa cousine, kidnappée avec ses deux enfants Ariel et Kfir et leur père Yarden?
Nous ne savons pas s'ils sont vivants ou non, s'ils vont revenir ou pas. C'est effrayant.
Les retrouvailles avec ses proches sont à portée de main et pourtant c'est maintenant que l'attente est la plus insoutenable.
Ce que fait le Hamas, libérer 33 personnes en 42 jours, c'est... Je ne sais pas si vous avez une famille, des enfants, mais imaginez-vous, vous êtes attendez un texto et dans ce message, on va vous dire si votre famille est toujours en vie ou pas. C'est ce qui s'est passé lors du dernier deal. Le Hamas joue avec nous, l'attente est en train de me tuer.
Et les images qui proviennent de Gaza après l'annonce du cessez-le-feu ont du mal à passer.
Je viens de voir des vidéos de Gaza. Dans certaines d'entre elles, on voit des célébrations. Ils tirent en l'air et ils crient en arabe. Merci au Hamas. Ils ne célèbrent pas la fin des combats. Ils célèbrent le fait qu'ils ont gagné.
Samedi, la veille de la libération des premiers otages, ce sera l'anniversaire du petit Kfir Bibas, il aura 2 ans.
J'espère que dimanche il sera là et que nous pourrons lui apporter un gâteau, un cadeau d'anniversaire et lui faire un énorme câlin.
Le cauchemar prendra fin lorsque les 98 otages reviendront tous, ajoute-t-il. Tel Aviv, Farida Noir, France Info pour RFI.
Et malgré l'annonce de la trêve, elle n'est pas encore effective. Elle doit rentrer en vigueur ce dimanche pour une durée de 6 semaines. Les bombardements de l'État hébreu qui n'ont pas pris fin, 20 personnes sont mortes hier soir et 7 ce matin lors de différentes frappes israéliennes. C'est ce qu'annonce la défense civile gazaoui, le bilan des morts à Gaza qui dépasse la barre des 46 000 victimes depuis le 7 octobre 2023. Et Rafi, il est 3h05 à Washington et à quelques jours de passer la main à Donald Trump. L'actuel président américain, Joe Biden, met en garde contre la désinformation et contre une oligarchie qui prend forme en Amérique. Lors de son discours d'adieu, le démocrate de 82 ans a évoqué une concentration dangereuse des pouvoirs dans les mains d'une poignée d'ultra-riches. Référence à peine voilée à Donald Trump et Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. Concentration qui menace la démocratie, les droits fondamentaux et les libertés, a-t-il conclu au terme d'un discours très sombre. Et puis États-Unis toujours, à Los Angeles. Le vent se calme dans la Cité des Anges. Un répit bienvenu pour les pompiers après plus d'une semaine à combattre les flammes. Des incendies qui ont fait au moins 24 morts. Les conditions météo qui devraient s'améliorer dans les prochains jours. Alors que la vie reprend son cours, presque comme avant, sur la côte ouest américaine. Les enfants ont notamment repris le chemin de l'école, même si certains ont dû prendre la direction d'un nouvel établissement scolaire. Reportage de notre envoyé spécial, Harim Lipold.
Il est 8h30, la sonnerie de la Brentwood Science School retentit comme chaque matin, mais pour des dizaines d'enfants, ce retour en classe est tout sauf ordinaire.
This is our transitional kindergarten.
Ça, c'est notre crèche transitoire, explique cet employé de l'école qui me montre fièrement les locaux spécialement aménagés pour accueillir les enfants du quartier Pacific Palisades. Les plus jeunes sont surexcités, ils découvrent de nouveaux jeux pour leur plus grand bonheur et celui de leurs parents, comme Jackie.
C'est tellement beau de voir les enfants de retour à l'école, de les voir jouer, sourire et rire, et ne pas être en mode panique, parce qu'ils sont encore traumatisés. Ils ne cessent de regarder le ciel pour vérifier s'il y a du feu quelque part.
Les rires des enfants résonnent dans les classes, tandis que certains parents, devant l'école, pleurent encore la perte de leur maison. Pour Diana, cette rentrée est un pas important sur le chemin de retour à une vie normale.
Le plus dur pour nous, quand on a vu que tout notre quartier avait été détruit, y compris l'école, c'était de se dire que les enfants ne pourraient plus aller en classe et revoir leurs camarades. Alors, les voir retourner à l'école aujourd'hui, ça nous enlève un énorme poids.
Mais un autre défi de taille attend maintenant les familles, trouver un logement abordable dans une ville où les prix immobiliers ont explosé. Harim Lipold, Los Angeles, RFI.
En Ukraine, le Premier ministre britannique Keir Starmer est arrivé ce matin à Kiev. Une visite surprise pour rencontrer le président Volodymyr Zelensky et pour signer un partenariat pour les 100 prochaines années, annonce Downing Street. Un partenariat historique pour renforcer les liens de sécurité, poursuit le communiqué, assorti d'une aide financière de près de 50 millions d'euros supplémentaires pour le redressement de l'économie ukrainienne. Le président angolais, João Lourenço, est à Paris, 2 jours de visite d'État pour aborder notamment le conflit dans l'Est de la RDC avec son homologue français Emmanuel Macron. João Lourenço à Paris et Faustin Archange Touadéra à Moscou, le président centrafricain qui rend lui visite à Vladimir Poutine. La dernière rencontre entre les deux hommes date de juillet 2023. C'était en marge du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. De quoi renforcer aujourd'hui le partenariat entre les deux pays, notamment sur les questions sécuritaires. Anis Al-Jabri.
Pour cet entretien, le Kremlin indique que les dirigeants discuteront, je cite, de l'État et des perspectives de développement de la coopération bilatérale dans les domaines politique, commercial, économique et humanitaire, ainsi que des questions d'actualité sur l'agenda international et régional. Son porte-parole a précisé ce mercredi dans tous les domaines possibles, y compris celui très sensible de la sécurité. Cette visite intervient après la levée totale de l'embargo sur les armes ainsi que la levée des restrictions sur le secteur diamantifère. La chaîne Ribar, réputée proche du ministère de la Défense, revendique dans ses décisions un rôle joué par la Russie, juge aussi, je cite, qu'il n'est pas exclu que Touadéra demande un autre lot d'aide humanitaire. Ribar pose surtout la question de contrepartie que la Russie pourrait mettre sur la table en échange, je cite encore, de toute l'aide apportée par le passé, sont cités encore une fois, l'ouverture d'une base militaire russe dans le pays et de nouveaux avantages pour les sociétés minières russes. Anis El-Jabri, Moscou, RFI.
Et la Centrafrique fixée sur son sort pour le prochain championnat d'Afrique des Nations. C'est du football bien sûr, si les fauves du Baoubangui n'ont jamais participé à la CAN, ils joueront leur première CHAN, ce sera en août prochain. Et ils ont hérité de la poule B en compagnie de la Tanzanie, de Madagascar, de la Mauritanie et du Burkina Faso. Alors que le Sénégal, tenant du titre, affrontera de son côté la RDC, le Soudan et le Nigeria. Voilà, c'est la fin du journal. Tout de suite, Juan Gomez pour rappel sur l'actualité.
Merci Martin Guez.
Je vous en prie.
Passez une bonne journée. L'info en continu, c'est évidemment sur notre site RFI.fr. Et pour écouter tous les grands entretiens de la journée, c'est sur notre application RFI Pure Radio. Reste avec nous dans 30 secondes. RFI vous donne la parole.